Chapitre 9. Anne décide de tourner à droite. Dans le doute, autant choisir la solution la plus simple. Elle voit le 53, puis le 37 un peu plus loin. Tous les numéros ne sautent pas aux yeux quand on passe en voiture. Elle est du bon côté, le 13 ne va pas tarder à apparaître.
Là, le numéro 13. Mais c'est une école ?
En effet, la plaque est fixée entre un grand portail grillagé et un ensemble de boîtes aux lettres posées sur un muret. Derrière s'étend la cour de récréation, puis une grosse bâtisse de pierre, l'école Sainte-Jeanne d'Arc. Anne trouve une place pour se garer presque en face. En face de l'école se trouve un échafaudage qui cache un immeuble en construction. Le stationnement est interdit aux abords du chantier. Les véhicules des entrepreneurs occupent la place. D'ailleurs, la journée se termine et les ouvriers sont en train de partir. L'un d'eux, en passant, lui adresse un sourire dragueur qui se veut sans doute irrésistible. Anne ne sait trop comment réagir, elle se contente de détourner la tête. Elle regarde sa montre. Il est 17h15, l'école doit être finie. Pourtant, au rez-de-chaussée, une salle de classe est encore allumée et on y perçoit une certaine animation.
Sans doute l'étude pour les enfants dont les parents travaillent.
Anne sort de la voiture, traverse la rue et lit les noms sur les boîtes aux lettres. Sur la dernière à droite est écrit « Germaine Lassier ».
Elle doit donc habiter l'école. Il doit y avoir des appartements tout en haut.
Anne remarque alors un panneau d'affichage de l'autre côté du portail. Quelques circulaires sont affichés. Un mot de bienvenue et la liste des classes avec leurs maîtres. Madame Lassier est notée comme partageant une classe de CM2 avec une autre maîtresse. Dans un coin, un papier décoloré informe les nouveaux parents que, pour inscrire leurs enfants, ils doivent prendre rendez-vous avec la directrice, Madame Lassier.
C'est donc la directrice. Ça explique qu'elle ait un logement dans l'école.
Anne regagne la voiture. La nuit tombe. Quelques parents franchissent le portail et entrent dans l'école récupérer leurs enfants. D'autres ressortent accompagnés de leur progéniture sautillante.
Si j'avais du culot, je prendrais un rendez-vous pour inscrire un enfant et tout en bavardant, je lui ferais raconter sa vie à Germaine. Seulement, je n'oserais jamais et le problème, c'est qu'ensuite je serais grillée, je ne pourrais plus l'approcher.
La salle de classe encore allumée s'éteint. Une femme sort de l'école, traverse la cour et vient fermer le portail à clé. Elle fait demi-tour, retraverse la cour et disparaît dans l'école.
C'est sûrement ma Germaine, mais avec l'obscurité, impossible de voir sa tête et encore plus de la photographier.
Quelques minutes plus tard, deux fenêtres s'éclairent, tout en haut et à droite du bâtiment de l'école.
Sans doute son logement.
La cour est maintenant dans l'obscurité. Les réverbères qui éclairent la rue ne sont pas orientés de ce côté. L'école est complètement noire, sauf trois groupes de lumière. Trois fenêtres éclairées dans une petite maison à gauche du portail, sans doute la maison du gardien. Les deux fenêtres qui viennent de s'éclairer et au même niveau côté gauche, trois autres fenêtres avec un éclairage plus coloré.
Donc Germaine doit habiter un des deux appartements du haut. Comment savoir ? En tout cas, ça correspond aux quatre boîtes aux lettres du portail, trois logements et l'école.
Anne soupire de lassitude. Tout ça ne l'avance pas beaucoup. Comment en apprendre plus ? Comment entrer dans l'intimité de cette dame qu'elle n'a jamais vue et qu'elle voudrait connaître ? Elle a beau se creuser la tête, elle ne trouve pas. Piem lui a bien dit que c'était une première visite de repérage, mais si elle rentre à Paris maintenant, elle ne rapportera pas beaucoup de repères. Elle sait que Germaine Lassier habite bien là, qu'elle est directrice d'école et elle pense l'avoir aperçue dans l'obscurité. Elle n'a même pas une photo. C'est un peu juste vu le temps passé et les kilomètres parcourus. Tout à coup, une idée lui vient. Elle la rejette d'abord comme irréalisable, puis elle se dit qu'elle doit la tenter, quitte à renoncer si elle s'avère trop difficile à mettre en œuvre. D'où elle est, elle ne peut apercevoir que le plafond des pièces éclairées et encore de biais, ce qui est d'un intérêt très limité. Par contre, si elle arrive à monter et à se percher sur l'échafaudage installé devant elle, elle sera juste en face de l'école
et si elle monte suffisamment haut, elle pourra avoir une vue plongeante sur les deux appartements éclairés. La principale difficulté consiste à pénétrer sur le chantier qui est fermé par des tôles et des grilles. Une fois à l'intérieur, il doit y avoir des escaliers, des échelles, tout ce qu'il faut pour aller jusqu'en haut. Anne prend le gros appareil photo en bandoulière et, vérifiant que la rue est déserte, elle sort de la voiture et referme la porte à clé. Elle s'approche de ce qui fait office de portail du chantier, deux cadres en gros tubes métalliques tendus de grillage et retenus par une chaîne et un cadenas. À cet endroit, Anne est en pleine lumière, le réverbère est juste derrière elle. Elle doit faire vite, car n'importe quel passant ou habitant de l'école qui regarderait dehors ne peut que la voir et se demander ce qu'elle vient faire sur un chantier fermé en pleine nuit. Elle aurait la place de passer par-dessous en rampant. Mais la pluie a laissé une grande flaque boueuse et Anne n'ose imaginer dans quel état elle serait après un tel bain. Elle repère que la chaîne a été cadenassée de façon assez lâche. Sans doute, celui qui en était chargé n'a pas voulu mettre les pieds dans la boue. En écartant les deux vantaux jusqu'à ce que la chaîne soit tendue, elle dégage un espace suffisant pour pouvoir se glisser. Elle n'hésite pas et passe une jambe dans l'ouverture. Son pied s'enfonce dans la boue et elle sent l'eau froide lui saisir la cheville et pénétrer dans sa chaussure. Elle doit alors se baisser pour passer la tête sous la chaîne. En forçant un peu, l'appareil photo en avant, elle passe les épaules et le bassin et enfin sa deuxième jambe. Elle est maintenant à l'abri de la lumière, plus personne ne peut la voir, mais elle ne voit plus grand-chose non plus. Elle fait un grand pas en avant pour prendre appui sur le sec et s'extraire de la mare de boue qui piège l'entrée du chantier. Mais elle a un mal fou à récupérer son pied enfoncé dans la boue, surtout qu'elle tient à récupérer aussi sa basket. Elle y arrive enfin après de gros efforts et après avoir risqué de perdre l'équilibre et de se retrouver les fesses dans l'eau. Ses yeux s'habituent à l'obscurité. En faisant très attention pour ne pas se blesser sur tous les obstacles qui encombrent le passage, elle suit la palissade dans l'espoir de repérer un passage de sortie plus facile. Elle le trouve. Un peu plus loin, deux plaques de tôle se chevauchent, simplement appuyées l'une contre l'autre. Il suffit d'en décaler une pour se glisser entre elles et le sol est sec. Maintenant qu'elle sait comment sortir, elle doit trouver comment monter sur l'échafaudage. Elle s'approche et découvre que c'est très simple. Posée sur le sol, une échelle permet d'accéder au premier niveau en passant par une trappe découpée dans le plancher de celui-ci. Arrivée au premier niveau, une autre échelle placée comme la première permet d'accéder au niveau supérieur et ainsi de suite. Anne s'élève ainsi en oubliant de compter les niveaux. Elle dépasse la hauteur de la palissade et se retrouve dans la lumière de l'éclairage public. Elle continue de monter et dépasse la hauteur du réverbère. Là, elle se retrouve à nouveau dans l'ombre, pratiquement invisible. De là, elle surplombe la cour de récréation. Encore deux niveaux et elle domine l'école elle-même et les fenêtres éclairées des appartements du dernier étage. C'est la position idéale pour voir ce qui s'y passe. Bien sûr, elle est un peu loin, mais en zoomant au maximum avec l'appareil photo, elle peut cadrer au plus juste une des fenêtres. Les barres de l'échafaudage lui permettent de bien se caler pour ne pas bouger. Elle repère immédiatement que l'appartement de gauche, à l'éclairage coloré, est habité par une famille. Une jeune femme et toute une flopée de jeunes enfants s'agitent en tous sens dans cette maison. Anne voit même un des enfants renverser en chahutant quelque chose sur la table et recevoir une gifle de la mère mécontente. Anne considère que, vu son âge, la jeune femme ne peut être la germaine qu'elle recherche, qui doit avoir au minimum la quarantaine. Elle s'intéresse donc à l'autre appartement, celui de droite. Mais il est moins intéressant, il ne s'y passe rien, il y a seulement de la lumière dans ce qui ressemble à la cuisine. Aucune présence, aucun mouvement ne se manifeste. Il y a sans doute des pièces qui ne donnent pas de ce côté-ci. Peut-être Germaine s'est-elle enfermée dans son bureau pour corriger des copies. Anne commence à s'ennuyer. Elle commence surtout à se geler sérieusement. Elle se dit qu'il ne doit pas faire plus de 5 degrés. Elle sent le froid qui la pénètre, elle sent son pied trempé devenir comme un bloc de glace. Elle se met à trembler, ce qui est bien gênant si elle doit prendre des photos. Elle sort son téléphone portable et appelle Chloé. Elles ont échangé leur numéro en se quittant. « Tu passes une bonne soirée avec ta copine Marianne ?»«
Tant mieux. »«
Oui, je vais vous rejoindre, mais pas tout de suite. J'ai encore à faire. »
Non, mais je suis gelée.
Commencez à manger sans moi, je vous rejoins dès que je le peux. Bise à vous deux, à tout de suite.
Pour se donner du courage, Anne pense à la bonne soirée qu'elle va passer au chaud, accueillie par des amis
dont elle ne soupçonnait même pas l'existence ce matin. J'aurais dû monter une couverture ou même mon duvet, j'aurais pu me réchauffer un peu.
Pour s'occuper, Anne jette un coup d'œil à l'immeuble en construction contre lequel elle est appuyée. Des pans de murs en béton, des dalles de béton, c'est froid. Anne irait bien visiter pour passer le temps et se dégourdir un peu les jambes, mais l'obscurité peut cacher des pièges et ce serait prendre des risques inutiles. Enfin, quelque chose bouge à l'une des fenêtres. Anne se précipite sur l'appareil photo, se servant du viseur comme d'une longue vue. Une femme d'une cinquantaine d'années vient d'entrer dans la cuisine. Elle jette un coup d'œil à la fenêtre, puis sort diverses choses des placards. Anne en profite et prend photo sur photo. La femme téléphone ensuite pendant un bon moment. Elle se remet à cuisiner sur une gazinière qu'Anne ne peut voir même en se déplaçant sur l'échafaudage pour changer son angle de vue. Finalement, elle met le couvert, un couvert pour elle seule, et s'installe à table pour manger. Anne comprend qu'elle n'apprendra plus grand-chose ce soir et qu'il est temps d'aller se mettre au chaud. Avec précaution, elle redescend de l'échafaudage par les échelles, rejoint la palissade, se glisse furtivement entre les deux plaques de tôle et rejoint rapidement la fourgonnette sans avoir rencontré personne. Elle démarre au plus vite et, toute grelottante, règle le chauffage à fond. Devant le domicile de Marianne, elle hésite un peu. Toutes les places de stationnement sont prises. Finalement, elle se gare comme elle l'a fait l'après-midi, devant le garage de Marianne, en se disant qu'elle se lèvera à l'heure qu'il faudra pour laisser Marianne sortir demain matin. Elle prend son sac et sonne à la porte de la petite maison. En attendant qu'on lui ouvre, elle commence à défaire les lacets de sa basket couverte de boue. Elle a un pied nu et une chaussure sale à la main quand la porte s'ouvre.
« Bonjour, je suis Marianne. Entre vite au chaud. »
Une jeune femme aux yeux rieurs et aux cheveux blonds ébouriffés, vêtue d'un pyjama beige, lui ouvre la porte et s'écarte pour la laisser entrer.
« Eh bien, moi, c'est Anne !»
dit celle-ci en empoignant son sac pour entrer tout en s'excusant.
« Désolée de vous envahir comme ça. J'arrive tard, je suis toute crottée et je n'ai même pas pensé à vous apporter un bouquet de fleurs ou un gâteau. » « Effectivement, je suis très déçue. Allez, entre, on va pouvoir passer à table. Pose ton sac dans un coin. »«
Vous auriez dû manger sans m'attendre. »«
Mais non !» intervint Chloé qui s'approche en pyjama elle aussi. « Plus il y a de folles, plus on s'éclate. Au fait, c'était bien ton rendez-vous ?»«
Oui, très bien, » répond Anne qui ne veut pas en dire plus. Mais Chloé s'approche, la dévisage une seconde, remarque son pied nu et son jean boueux.
« Tu t'es fait agresser ?»«
Mais non, pas du tout. » Chloé lui prend alors les deux mains.
« Mais t'es complètement glacée !»«
Oui, c'était dehors. »«
C'était un peu zarbi ton rencard !»
Puis s'adressant à Marianne.
« Tu m'aides ? On la jette dans un bain bouillant ?»
Anne tente de se défendre.
« Je prendrai une douche après dîner, depuis le temps que vous m'attendez. »« Pas question, on te réchauffe d'abord, mais on va prendre l'apéro en t'attendant. »
Marianne invite alors Anne à la suivre.
« Je vais te montrer, tu ne risques pas de te perdre, c'est tout petit chez moi. Au rez-de-chaussée, une cuisine et un salon, à l'étage, deux chambres et une minuscule salle de bain. C'est la maison de ma mère que j'habite depuis qu'elle est décédée l'année dernière. » Il y a des travaux à faire, mais ça attendra que les finances le permettent. En tout cas, c'est vraiment très sympa de m'accueillir comme ça.
Ça me fait du bien d'accueillir du monde de temps en temps. Ce n'est pas toujours drôle de vivre toute seule. Marianne entre dans la salle de bain, ouvre en grand les robinets de la baignoire sabot et sort une serviette éponge d'un petit placard.
Si tu veux mettre de la mousse, il y en a sur l'étagère. »
Marianne sort en tirant la porte. Anne cherche le verrou pour être tranquille, mais il n'y en a pas. Elle récupère le pyjama qu'elle a emporté dans son sac au cas où et le pose sur le radiateur. Elle se déshabille en faisant attention de ne pas se cogner car la pièce est réellement toute petite. Puis elle entre dans l'eau qu'elle trouve brûlante tellement son corps s'est refroidi. Elle commence à s'habituer à l'eau chaude et à se détendre malgré la position recroquevillée dans cette petite baignoire quand on l'appelle à travers la porte.
« Oui ?» dit-elle sans réfléchir.
Mais on ne lui demande rien. À sa grande surprise, la porte s'ouvre et Chloé entre, une bouteille dans une main et des verres dans l'autre.
« Tu vois, on va trinquer ensemble sans perdre de temps. J'avais peur que tu sois un peu coincée et que ça t'emmerde de prendre l'apéro à poil dans ton bain. Mais t'es plus cool que je croyais. Malibu, ça te va ?»«
Oui !»
Marianne entre à son tour avec une assiette de biscuits salés. Elle la pose en équilibre sur le rebord de la baignoire. Chloé lui sert un verre de Malibu. Anne n'est pas très à l'aise, contrairement à ce qu'en pense Chloé, elle est plutôt coincée, enfin plutôt pudique. Elle n'a pas l'habitude de se montrer nue, même entre filles. Pour le moment, elle s'immerge dans l'eau le plus possible et elle agite les mains pour se couvrir d'un maximum de mousse. L'ambiance est très chaleureuse. Chloé raconte avec force détail toutes les petites manies de son mec, celui qu'elle vient de quitter, qui l'ont agacé au plus haut point. Le plus drôle, c'est quand elle le mime en train de faire sa toilette. Marianne doit s'asseoir par terre pour reprendre haleine tellement elle rit, et Anne en oublie presque sa situation délicate.
« Tu ferais une comédienne super pro. En plus, tu as une imagination. Ah, mais je n'invente rien !»
Marianne et Chloé finissent par redescendre en signifiant à Anne qu'elle ne traîne pas à les rejoindre. Les trois filles, en pyjama, dînent et rient de bon cœur. Chloé continue à raconter ses déboires conjugaux avec beaucoup de détachement et d'humour. Elle est effectivement très drôle quand elle n'est pas en pleine dépression et Marianne, qui lui donne la réplique, n'est pas triste non plus. Anne n'a pas à se soucier de la conversation, elle est occupée à rire et à avaler ses lasagnes quand elle retrouve un peu de souffle. Il est un peu tard lorsqu'elle se décide à aller se coucher. Marianne, qui garde sa chambre et son lit, leur propose le lit double dans l'ancienne chambre de ses parents.
« Parfait. J'espère juste que Chloé ne ronfle pas, » répond Anne. « Bien sûr que je ronfle. Si t'as pas prévu tes boules quies, tu vas voir ce que c'est que de pioncer à côté d'un diesel. » « Alors, fermez bien la porte, » conclut Marianne. « Je ne veux pas savoir ce qui va se passer sous votre couette. »
Anne s'endort, sitôt la tête posée sur l'oreiller. Le bon repas, l'ambiance conviviale et les fous rires, le bain chaud après le froid du dehors, un peu d'alcool, rien ne manque pour la faire sombrer au plus vite dans un sommeil réparateur. Vendredi 3 novembre. Anne se réveille au milieu de la nuit, sa voisine s'agite. Elle est trop habituée à dormir seule et au calme dans son appartement et dans son lit pour ne pas être gênée par la présence remuante de Chloé à son côté.
« Tu ne dors pas ?» demande Anne sans ouvrir les yeux.
« Non, je cogite. »«
Tu penses à quoi ?»«
À mes vieux. Mais c'est mes oignons. Tu ferais mieux de continuer à roupiller tranquillou. »«
Ça te gêne de retourner chez eux ?»«
Ben ouais. Je me suis tirée en claquant la lourde et en 3 mois, je ne leur ai donné aucune nouvelle. Alors c'est pas fastoche de me ramener avec un sourire à travers la tronche. » « Salut, c'est moi, je peux reprendre ma piole ?»«
Oui, je comprends. »
Chloé est assise, adossée à l'oreiller. Anne, qui commence à se sentir bien réveillée, se redresse elle aussi. S'ensuit un grand moment de silence où chacune rumine ses problèmes. Anne suit toujours ses idées. Elle cherche comment profiter de sa présence à Blois pour mieux connaître Germaine Lassier et avoir des précisions sur le fils qu'elle aurait eu avec Émile Perrier. Elle ne sait trop comment s'y prendre et il lui revient l'idée de prendre rendez-vous avec la directrice de l'école Sainte-Jeanne d'Arc pour inscrire un enfant. Mais vraiment, elle ne le sent pas. Déjà, elle ne sait pas mentir. De là à se lancer dans toute une histoire à inventer au fur et à mesure sans se contredire et en restant vraisemblable, ça lui paraît nettement au-dessus de ses forces. Et tout à coup, elle pense à Chloé, dont elle a tant apprécié les talents de comédienne il y a à peine quelques heures.
« Chloé, tu dors ?»«
Non. »«
Tu crois que je pourrais te demander un service ?»«
Là, maintenant ?»«
Non, demain. »«
Dis toujours. »
Il s'agirait d'interroger discrètement une certaine personne pour obtenir certains renseignements.
« Dis donc, c'est vachement dingue ta vie. Tout ce que tu fais, c'est top secret, et dès que tu penses un truc, t'as peur que ça s'entende. J'ai vu ton appareil photo dans ton sac, il est dément. J'en avais jamais vu de comme ça. J'ai l'impression d'être à côté de James Bond, en moins viril quand même. Tu dois être un genre d'espionne, non ? Tu fais 200 bornes pour un rencard dehors en pleine nuit, tu reviens complètement glacé, avec une pompe en moins, et tu nous dis que c'est normal, tout va bien ?
« Don't worry, no suicide. »«
Bon, alors, qu'est-ce que je dois faire pour t'aider ? Piquer des papelards compromettants, te trouver un flingue, refroidir un mec ?»«
Tu as de l'imagination, c'est bien. Tant mieux, il va t'en falloir. »«
Sache quand même qu'il y a encore un mois, ma vie était d'une routine qui m'écœurait. Boulot, dodo, boulot, à part ça, rien. Même pas un mec pour me faire rêver, rien. » J'ai prié Dieu pour que ça change, je n'en pouvais plus. Et puis, un vieux monsieur qui habitait sur le même palier est mort, assassiné chez lui, à 2 mètres de chez moi. Déjà, ça fait un drôle d'effet. Alors un autre voisin, un détective privé, qui habite aussi sur ce palier, m'a demandé de l'aider à retrouver le véritable assassin, car la police accuse bêtement le petit-fils du vieux monsieur. Anne se dit qu'elle a bien fait de mettre Piem dans la peau d'un détective privé. Ça fait plus vrai, et puis ça l'entraîne à mentir.
C'est vachement dingue ton histoire, c'est super excitant. Et tu es tombée folle amoureuse du détective privé ?
Non, du petit-fils, il s'appelle Jean-Baptiste.
Mais c'est romantique à donf, ma vieille !
Bon, d'après un de nos indicateurs, c'est un proche de la victime qui a fait le coup. Alors nous faisons le tour des proches et nous vérifions les alibis.
Et un de ses proches, comme tu dis, crèche ici, à Blois ?
Un sûr, peut-être deux.
Explique-moi, je pige que dalle.
Je vais t'expliquer, mais il faut me jurer de garder le secret.
Jurer, cracher. Tu veux vraiment que je crache ?
Non, c'est bon, je te fais confiance.
Voilà. La deuxième femme de ce vieux monsieur, qu'elle a d'ailleurs quitté depuis pas mal d'années, est directrice d'une école privée, ici, à Blois. J'ai besoin d'avoir un maximum de renseignements sur cette dame, sur ses habitudes, sur son histoire et surtout sur son fils. Car ils ont eu un fils ensemble qui doit avoir une 20aine d'années maintenant.
Et comment tu veux que j'aille me rencarder ? Bonjour, madame Ladirlo. Est-ce que votre fils, il ne serait pas gangster par hasard ? Ma copine pense qu'il a refroidi son vieux pour lui piquer son oseille.
Voilà, c'est ça. Enfin, exactement le contraire qu'il faut faire. Il faut jouer dans la délicatesse, glaner quelques renseignements ici ou là. Ce qu'il nous faudrait, c'est le prénom et le nom de son fils, savoir où il habite et ce qu'il fait comme boulot. Si en prime tu peux savoir s'ils se rencontrent régulièrement, sa mère et lui, ce serait le paradis. Et si tu ne me ramènes que la moitié des renseignements, tu ne te seras pas déplacé pour rien.
Ok, mais je fais comment, moi, pour qu'elle se mette à table, la vieille ?
Délicatement, en douceur.
Eh bien, tu pourrais, l'air de rien, prendre rendez-vous pour inscrire ton enfant en maternelle. Un enfant fictif, bien sûr, à toi d'inventer un prénom, une histoire, si possible qui ressemble à la sienne, ça pourrait aider. En discutant le coup avec elle, tu joues la sympathie, tu comprends ses malheurs qui ressemblent tant aux tiens, et petit à petit vous discutez et tu lui tires les vers du nez. Mais je ne veux pas te forcer, fais-le seulement si tu le sens.
Il est 2 plombes du mat, il me reste assez de temps pour réfléchir avant le petit-déj. Je te dirai demain, mais ça me branche ton truc. Et puis, je te dois bien ça.
Non, non, je te dis. Tu le fais si tu le sens, c'est tout.
En tout cas, si je continue à ne pas dormir, ça va me faire gamberger autre chose que mes problèmes de merde. Merci pour ça.
Après un moment de silence, Anne se rallonge et se rendort, l'esprit en paix.
Elle pense avoir trouvé une solution intéressante à son problème du jour. Chloé, après avoir passé une partie de la nuit à cogiter, s'endort sur le matin. Anne se réveille en entendant la cloche d'une église voisine. Sans ouvrir les yeux, elle compte 5, 6, 7, 8. Elle ouvre les yeux, il fait jour, elle se redresse en sursaut. Merde, il fallait que je bouge la voiture avant 7 heures pour que Marianne puisse sortir la sienne. Elle a un regard attendri pour Chloé qui n'a rien entendu et dort paisiblement. Elle se lève au plus vite et sort de la chambre. Elle ouvre la porte en face. Marianne est partie, le lit est fait, les volets ouverts, la chambre rangée. Anne descend l'escalier, trouve le couvert mis pour leurs deux petits déjeuners. À côté, sur la table, ses clés de voiture posées sur une feuille de papier griffonné. Bon appétit à toutes les deux. Désolée, Anne, je n'ai pas eu le courage de te réveiller. Tu avais laissé tes clés dans la poche de ton blouson, je me suis débrouillée avec. Bonne journée, à ce soir. Marianne. Anne jette un coup d'œil par la fenêtre, la fourgonnette est bien là, garée devant le garage. Cette Marianne est vraiment une fille épatante. Je ne crois pas qu'elle connaisse Chloé beaucoup plus que moi, et pourtant elle nous reçoit comme si nous étions ses deux meilleures amies d'enfance. Il faudra que je trouve un moyen de la remercier. Chloé émerge une heure plus tard, elle descend l'escalier et s'approche de la table du petit déjeuner. « Salut, lui dit Anne, tu as bien dormi ?»«
Oui, à force de brasser, j'ai quand même fini par pioncer un moment. »
Tu as pensé à ma proposition ?
Je n'ai fait que ça.
Et alors ?
Alors, c'est bon. Je crois que je le sens.
Génial !
D'ailleurs, c'est quelle heure ? Il faut que je bigophone pour le rencard.
Chloé a pu prendre rendez-vous avec Madame Lassier à 18h, après l'étude, ce soir. Anne est toute excitée, elle attend avec impatience les résultats de l'imposture qu'elle a imaginée et organisée avec l'aide fortuite de Chloé. En attendant, la journée passe vite pour les deux filles. Elles ont eu l'idée de faire un grand ménage dans la petite maison pour remercier Marianne de son accueil et de ses attentions. Elles font la vaisselle, passent l'aspirateur, lavent par terre, font briller la salle de bain, nettoient les vitres, balayent le garage et préparent le dîner. À 6h moins le quart, elles montent dans la fourgonnette direction l'école Jeanne d'Arc. Rue des Écoles, Anne dépasse l'établissement avant de se garer. Inutile que quelqu'un comme le gardien puisse faire le lien entre cette maman qui vient d'inscrire son enfant et la fourgonnette qui rôde dans le quartier. Il est à peine 6h. Chloé fait la bise à Anne et s'éloigne rapidement. Elle a le sourire et paraît sûre d'elle. Est-ce de bon augure ? Ne vaudrait-il pas mieux qu'elle ait le trac comme les grands comédiens ? Anne, qui a été très confiante toute la journée, se sent tout à coup inquiète. Chloé n'est-elle pas en danger ? Ne l'aurais-je pas envoyée explorer la gueule du loup ? Le mobile du crime d'Émile Perrier nous échappe toujours. Germaine Lassier peut être l'assassin de son ex-mari. Dans ce cas, si elle se rend compte que Chloé veut lui tirer les vers du nez, ne peut-elle devenir dangereuse ? Anne se dit qu'elle doit prendre patience au moins une demi-heure. Le temps de se présenter, de présenter l'école, de parler de l'enfant. Le temps de parler de la pluie et du beau temps, le temps de tourner autour du pot, le temps de se sentir en confiance, pour en arriver au temps des confidences, il y a bien de quoi occuper une demi-heure. Mais au bout d'une demi-heure, Chloé n'est pas encore revenue. Anne est de plus en plus tendue. Elle essaie de se raisonner. Si elles discutent longtemps, si elles prennent leur temps, c'est qu'elles sont bien ensemble. Et si elles sont bien ensemble, tout va bien, elles vont se faire des confidences et Chloé va me ramener les renseignements que j'attends. Un peu plus tard, l'impatience d'Anne grandit encore.
Bon, ça va faire 3 quarts d'heure, je vais quand même aller jeter un coup d'œil.
Anne descend de voiture et marche sur le trottoir en direction de l'école. Comme la veille à la même heure, il fait noir et la rue bien éclairée fait paraître la cour encore plus sombre. Seule brille une petite lampe au-dessus du perron qui peut laisser entendre qu'on attend le passage de quelqu'un. Les fenêtres du gardien sont éclairées, ainsi que celles de l'appartement de gauche. Côté droit, aucune lumière. Tout est bien normal. Anne passe lentement, cherchant à remarquer un indice quelconque dans l'obscurité. Elle fait demi-tour et repasse aussi lentement. À ce moment, elle se rend compte de la bêtise de sa démarche. Elle risque beaucoup plus de se faire repérer, que d'apercevoir ce qui se passe dans les profondeurs de cette immense bâtisse toute noire. Cela va faire une heure que Chloé est partie. Anne est tendue et angoissée au plus haut point. Tout à coup, elle pense au téléphone. Rien ne l'empêche d'appeler Chloé sur son téléphone portable. Elle le prend et fait apparaître le numéro dans le répertoire. Elle n'a plus qu'à appuyer sur « Appeler », mais elle se retient. « C'est peut-être idiot. Je risque de brusquer la conclusion d'une conversation peut-être fructueuse, car au-delà d'une heure, elles ne doivent plus parler de la classe du gamin et ont sans doute engagé un échange plus intime. D'autre part, si Chloé a un problème, je ne sais pas trop ce que je pourrais faire d'efficace dans la minute. J'attends encore. » À 19h25, ayant renoncé à compter les minutes, Anne voit tout à coup celle qu'elle n'espérait plus apparaître dans le rétroviseur. Chloé monte en voiture. « Alors ?» demande Anne. « Comme sur des roulettes, mais j'ai l'impression d'être une salope. Elle m'a pris pour une frangine sympa et je ne suis qu'un mouton. » « C'est vrai, mais c'était nécessaire. Ce n'est pas aller trop loin. » Elle m'a raconté sa vie pendant que j'inventais la mienne. Au départ, elle était assez coincée, posée raide sur sa chaise, style dirlo de pensionnat ou mère sub du couvent. Tu vois le genre. Je lui ai causé de mon Antoine à inscrire en maternelle. « Antoine ? Coup de bol, son rejeton, c'est Antoine aussi. Génial, on a son prénom. » « Ouais, mais je sais pas son nom. Elle a commencé par me débiter tout le fourbi habituel des petits nouveaux, la paperasse à remplir et tout ça. Après, quand elle a eu fait son boulot nickel chrome, on a pu commencer à discuter. Je lui ai raconté comment je me trouve seule avec mon gamin parce que son père m'a larguée. À partir de là, elle s'est lâchée doucement et m'a déballée toute sa vie. Elle a dû se déberder avec son mioche pour se trouver un boulot et un appart. Elle a atterri là et elle a fait son trou. Si j'ai bien compris, elle est restée vierge, enfin seule. Elle n'a pas eu d'aventure, quoi. Tu as pu en apprendre plus sur son fils ? J'ai compris qu'il est dans le commerce, mais je ne sais pas de quoi. Que les affaires marchent pas terribles et qu'il filerait plutôt en mauvais coton. Sa pauvre mère s'inquiète. Elle a peut-être raison de s'inquiéter. Écoute encore ça, ça devrait t'intéresser. Comme elle m'a dit, j'ai cru comprendre que, depuis quelques semaines, ça irait plutôt mieux, ses affaires. Il aurait fait un bon coup. Effectivement, c'est très intéressant. Et tu sais où il habite, s'il voit sa mère régulièrement ? Elle n'a pas dit où il crèche, mais sûrement pas loin, parce qu'il se voit souvent. Des fois, il passe comme ça en coup de vent. Des fois, elle passe le week-end chez lui. C'est génial, Chloé. Tu nous as fait un vrai travail de pro. Avec ces informations, on va pouvoir avancer. Je suis sûre qu'on va arriver à le localiser rapidement et on pourra le surveiller, savoir ce qu'il trafique et savoir si c'est lui l'assassin de son père. Il faut que je rentre à Paris parce que je travaille demain matin, mais on reste en relation et si je peux faire quoi que ce soit pour toi... Ce que j'ai besoin, c'est d'un job. Ça m'éviterait de retourner à Avignon et de me coltiner mes vieux. Pour le reste, je me démerderai toujours. Je ne peux rien te promettre, mais s'il me vient une idée, je ne t'oublierai pas. Anne ramène Chloé chez Marianne, elle dîne avec ses deux nouvelles amies, puis prend congé et rentre à Paris.